Bien, bonsoir. Si nous nous laissions aller à croire ce qui flotte dans l'air du temps et qui est colporté abondamment par les médias, nous pourrions conclure que l'économie échappe aux êtres humains. Elle leur serait en quelque sorte extérieure et elle obéirait à des logiques mystérieuses, à des mécanismes inaccessibles, relevant de phénomènes naturels comme la pluie. Peut-on décréter qu'il va pleuvoir? Ou même, si l'on suivait certains, à des phénomènes surnaturels. Dès lors, prétendre réguler l'économie, l'encadrer, la soumettre aux choix politiques, ne pourrait être qu'une ambition démesurée et dérisoire portée par des démiurges. Mieux vaudrait donc s'en remettre à l'œuvre merveilleuse du marché capitaliste. Spontanément, le marché trouverait l'équilibre économique et social optimal. Mais il existerait une condition à tout cela, évidemment, libérer le marché. Le libérer de toutes les entraves qui freinent son mouvement, celles des peuples, qui ne peuvent être que populistes, celles des syndicats qui ne peuvent être que corporatistes, celles des États qui ne peuvent que conduire à l'étatisme, celles des nations, enfin, qui ne peuvent qu'encourager le nationalisme. Tel est le fond de source de l'idéologie libérale dominante. On nous dit depuis des années c'est la crise. C'est faux. Il n'existe aucune crise économique. Il existe en revanche un choix stratégique fait par les firmes multinationales et les milieux conservateurs mondiaux de réorganiser l'économie en faveur des catégories aisées. Et c'est sur ce dernier aspect que je voudrais centrer cet exposé. Le courant néolibéral, à partir du début des années 80, s'est bâti une dimension mondiale, comme le capitalisme n'en a jamais connu dans le passé. Il possède un corps de doctrine extrêmement cohérent, virulent, militant, visant de façon explicite à révolutionner le monde. Sur le plan politique et idéologique, ce courant a enraciné l'idée simple qu'il n'y aurait plus d'alternative à ces principes et qu'il fallait s'adapter à ces normes. Aucun système de pensée n'a imposé son hégémonie de manière aussi complète. La tâche de ses opposants, dont nous faisons partie, est alors d'offrir une analyse critique puissante, d'abord, d'autres orientations et de préparer d'autres régimes politiques. La contre-révolution néolibérale a déployé une grande force, aussi bien intellectuelle que politique, beaucoup d'énergie, d'intransigeance théorique et de dynamisme stratégique, même si sa force propulsive se trouve altéré depuis 1995. L'adversaire est redoutable, il a obtenu de nombreuses victoires au cours des dernières années, mais il n'est pas invincible. Comment envisager le renversement du néolibéralisme? Quels sont les éléments d'une politique capable de faire place nette, en particulier sur les questions du chômage et du travail, qui sont au cœur des stratégies néolibérales? Et je vais développer quatre points dans mon exposé. La première partie va traiter des causes du chômage, en soulignant qu'elles sont toutes de nature politique et qu'il n'existe pas un gramme de raison économique dans l'explosion du chômage à partir du milieu des années 70 et son maintien depuis à des niveaux élevés. La justification de cette partie sur les causes du chômage tient au fait que le chômage est la conséquence la plus dramatique des politiques néolibérales et que la confusion la plus extrême est entretenue dans la société sur ses causes réelles. Il paraît rigoureusement impossible d'avancer dans la solution du problème si ses origines ne sont pas clairement établies. La seconde partie, qu'on abordera peut-être plus tôt dans la discussion, en fonction du temps, se propose d'illustrer la manière dont pourrait fonctionner ce que j'appelle un statut de l'actif. Le moment est en effet venu de donner à voir concrètement le visage que pourrait prendre le droit constitutionnel à l'emploi en France, mais à l'échelle planétaire. Son financement, son organisation pratique, son cadre institutionnel, les conditions d'éligibilité pour ses bénéficiaires, les luttes sociales que nous pouvons développer pour y parvenir. Dans la troisième partie, j'aborderai quelques réflexions sur des propositions macroéconomiques qui ont pour ambition de susciter un débat sur les politiques économiques largement inexistant, notamment à gauche. Et elle complétera la partie précédente dans le sens où elle abordera la question de la mondialisation libérale et avancera sur les politiques publiques alternatives qui pourraient être mises en œuvre. La quatrième et dernière partie abordera les luttes pouvant être menées pour atteindre ces objectifs. Trois pistes seront suggérées. Tout d'abord, une offensive idéologique antilibérale qui apparaît indispensable pour gagner le salariat, les retraités, on va voir pourquoi on exerce les retraités, et la jeunesse. Ensuite, un effort considérable devrait être entrepris pour imaginer des possibles. Par exemple, que pourrait être un territoire sans chômage, espace de libération de toutes les créativités humaines? Quel rôle mondial et local pourraient jouer les grandes entreprises devenues des biens communs universels? Quelle attitude pour les collectivités locales? Que peuvent-elles faire de plus? Première partie, donc, le chômage et la précarité ont des causes exclusivement politiques. C'est la victoire provisoire, évidemment, du modèle de civilisation néolibérale qui est à l'origine du chômage, de la précarité et de la dégradation de la norme d'emploi dans le monde. Aucune cause économique naturelle n'est à rechercher à cette situation. Aucun choc économique dans la production, les technologies, l'épargne ou la consommation n'est visible qui pourrait expliquer le chômage. L'affirmation du primat des causes politiques du chômage peut surprendre, tant les esprits ont été habitués à croire par une propagande lancinante et permanente que le monde était en crise et qu'il n'existait plus de travail. En réalité, le chômage est la conséquence directe de décisions politiques prises par les différents États depuis le début des années 70. Il est également la résultante de l'absence de décisions de ces mêmes États, alors qu'ils disposaient et qu'ils disposent toujours de tous les moyens pour endiguer le fléau. Par cause politique du chômage, on peut également parler de l'esprit général des peuples et de leur degré de tolérance ou de soumission aux injustices. On pourrait rétorquer, comme l'a fait le président Mitterrand au milieu des années 80, je cite, « Contre le chômage, on a tout essayé ». Il est vrai que les discours et les slogans n'ont pas manqué. Tout le monde se rappelle des slogans « Guerre au chômage »,« Mobilisation générale contre le chômage »,« Croisade pour l'emploi des jeunes ». Personne ou presque ne veut ou ne peut reconnaître cette évidence si toutes les politiques mises en œuvre depuis 25 ans pour combattre, entre guillemets, le chômage ont échoué, si ces politiques ont échoué, c'est que l'on a constamment refusé de s'attaquer à la racine du mal, et plus encore parce que le chômage a été sciemment organisé, planifié, encouragé. Il est possible de résumer les causes du chômage et la dégradation de la norme d'emploi en quatre explications principales. Première explication du chômage, en réaction à la montée en puissance des forces de progrès, la contre-révolution néolibérale qui triomphe au milieu des années 70 utilise le chômage comme instrument principal de sa reprise de contrôle. Pendant 10 ans, du milieu des années 60 au milieu des années 70, le rapport des forces mondiales a progressivement basculé en faveur des mouvements progressistes. Il en a résulté une très nette amélioration de la norme d'emploi, tant sur le plan quantitatif, avec un plein emploi relatif, que sur le plan qualitatif, avec la création en Europe particulièrement, mais pas seulement, d'un véritable statut salarial. Il est parfaitement fondé d'affirmer que ce résultat avait des causes politiques, c'est-à-dire un rapport des forces favorables, et non des causes économiques. La contre-révolution néolibérale s'est placée sur le terrain politique et idéologique pour finalement submerger les forces de gauche. L'histoire de cette défaite reste à écrire, mais quelques éléments sont aujourd'hui évidents. Jusqu'au début des années 70, la montée en puissance des forces de progrès a provoqué une perte de contrôle du capitalisme dans de nombreux pays et un progrès social généralisé. Le plein emploi relatif, j'utilise le terme relatif parce que les femmes restaient généralement hors du travail à cette époque, ce plein emploi relatif des 30 années qui suivent la Seconde Guerre mondiale dans les pays occidentaux et l'amélioration de la situation dans les pays du tiers-monde s'explique par l'encadrement du capitalisme. Cet encadrement s'opère par les forces de progrès, à l'apogée de leur puissance dans les pays occidentaux, par l'existence d'un camp dit socialiste, quoi que l'on pense de ces régimes politiques, par les difficultés internes aux États-Unis suscitées notamment par la guerre du Vietnam, par la montée des mouvements de libération nationale qui expérimentent alors des voies de développement non capitaliste. S'ajoute à cette transformation du rapport des forces les événements de mai 1968 qui remettent en cause l'esprit du capitalisme lui-même dans de nombreux pays occidentaux. Dans les années qui suivent 1968, le désordre, j'utilise des guillemets, dans les entreprises de certains pays occidentaux crée une sorte de pouvoir ouvrier qui se traduit par d'immenses avancées du droit du travail. Les directions d'entreprise perdent une partie du contrôle sur leurs salariés. La productivité et les profits baissent, les salaires montent et les luttes ouvrières sont radicales. La critique contre le capitalisme se généralise, provoquant une amélioration considérable de la norme d'emploi lors de la nouvelle société de Jacques Chaban-Delmas après les événements de 68. Mais la conscience de ce rapport de force passé est en train de disparaître sous l'effet notamment d'une sorte de révisionnisme économique conduite en particulier par le FMI et l'OCDE qui vise à faire croire, l'argument a fonctionné en Grande-Bretagne, que les 30 années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale n'ont été qu'un accident de l'histoire. Cet accident aurait propulsé les États dans la gestion économique des nations, favoriser l'extension des syndicats et finalement créer les conditions de la crise. Il faudrait donc effacer ces années passées des mémoires, culpabiliser les acteurs de cette période afin de les dissuader, ainsi que leurs enfants, de l'envie de recommencer. Permettez-moi de vous citer quelques extraits d'un rapport de l'OCDE tiré d'une réunion qui s'est tenue en mai 1971 et qui avait pour ordre du jour, je cite, « le phénomène de dégradation qui caractérise aujourd'hui le comportement des travailleurs, le durcissement des attitudes et le fléchissement des motivations dans l'industrie ». Selon les organisateurs de cette réunion internationale de l'OCDE, donc en 71, les économies industrielles subissent une révolution qui franchit toutes les frontières culturelles, apparaissant simultanément dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Elle ne se limite pas aux seuls travailleurs, mais influe sur les conceptions et les réactions des cadres. Cette révolution se manifeste notamment par un défi à l'autorité. Elle est présente même dans les nations où l'éthique protestante s'est exprimée avec le plus de vigueur morale et de réussite matérielle, comme l'Allemagne, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne ou les États-Unis. Certains jeunes vont souvent jusqu'à préférer la pauvreté ou la mendicité au travail en usine. Cette révolution est particulièrement vive en France, où l'on débat interminablement de la nécessité de construire une société sans classe, sans hiérarchie, sans autorité et sans réglementation. Et en Italie, pays où les conflits industriels et le malaise social conjuguent constamment leurs effets et où les détails mineurs de progrès techniques sur les lieux de travail provoquent des conflits d'une violence disproportionnée à leur cause. Dans ces deux derniers pays, mais aussi en Allemagne, l'autorité établie a été battue en brèche, de manière organisée et délibérée, allant parfois jusqu'à la violence physique caractérisée. Les jeunes ouvriers ont rendu aux agents de maîtrise certains ateliers ingouvernables. Le niveau très élevé du nombre de journées de grève à l'époque s'accompagne d'un durcissement des conflits, souvent accompagné de violences et par une guérilla quotidienne sur le lieu de travail. Si les grèves nationales interprofessionnelles se déroulent dans un cadre légal, il n'en va pas de même des grèves d'entreprise, où le recours à l'action illégale et même à l'action violente est fréquent, ce qui traduit une nette rupture avec la période précédente avant 68. Dans une étude portant sur 123 conflits de l'année 1971 en France, on trouve dans 32% des cas des violences verbales, menaces de violence, injures, colibets contre la direction. Dans 25% des cas, des piquets de grève durs, interdisant l'entrée des locaux aux salariés qui voudraient travailler. Dans 20% des cas, des occupations. Dans 20% des cas, des violences physiques contre le patron, les cadres, la maîtrise, des séquestrations ou des bagarres délibérées avec la police. Le recours à une forme ou une autre d'illégalité importante affecte une grève sur deux. La participation à l'action illégale touche environ un tiers des travailleurs. Le chômage a été utilisé partout dans le monde développé pour briser cette conflictualité sociale. En créant, d'abord, la contre-offensive s'est développée en créant ou en réactivant ce qu'on appelle des think tanks, c'est-à-dire des boîtes à idées, dans lesquels les milieux patronaux et conservateurs se sont organisés pour reprendre la main sur le plan idéologique dans les entreprises, les médias, les partis politiques et les gouvernements. Ces boîtes à idées, face à la domination de la gauche à la libération, se sont organisées dès 1947 pour reconstruire totalement le discours libéral autour notamment d'une de ces boîtes à idées, qui est la fondatrice de la société du Mont Pèlerin, qui s'appelle comme ça, et des idées de l'économiste von Hayek, qui a lancé la révolution contre néolibérale. La gauche leur a laissé, trop laissé, le champ libre sur le plan idéologique, croyant peut-être qu'elle était éternelle. Friedrich von Hayek est universellement reconnu comme étant le père fondateur de la théorie néolibérale. Il a bâti le soubassement théorique du capitalisme contemporain. On peut résumer sa pensée aux deux idées suivantes. Il faut se soumettre aux forces impersonnelles du marché, d'une part, et d'autre part, les syndicats faussent le marché du travail. Leur pouvoir doit donc être limité. Ainsi, une toute petite secte ultra-minoritaire dans les années 50 et 60 a gagné la bataille intellectuelle entre le milieu des années 70 et 1995, date à partir de laquelle, heureusement, elle commence à refluer à la suite des immenses mouvements sociaux en France et de l'émergence d'un courant anti-mondialiste, c'est-à-dire anti-capitaliste. Outre la paresse intellectuelle de la gauche, plusieurs facteurs expliquent certainement cette victoire. La défaite des conservateurs anglais en 1974, qui favorisent la prise en main du parti par les éléments les plus ultra. Le premier choc pétrolier de 1974 et le ralentissement économique qui suit, utilisé pour justifier les thèses néolibérales face à l'impuissance des politiques keynésiennes. L'impopularité croissante des luttes sociales en Grande-Bretagne, notamment dans la fonction publique. La victoire électorale, enfin, de Margaret Thatcher en 79 et de Ronald Reagan en 1980, qui libère les forces néolibérales à l'échelle planétaire. Depuis, ces think tanks ont colonisé l'État, les médias, les cabinets ministériels et les institutions européennes afin de défendre les intérêts des grandes entreprises. Cet effort théorique et idéologie néolibérale centrée sur le travail et le chômage a submergé les forces de progrès. Une dizaine de thèmes, tout au plus, forment le corps de doctrine de l'idéologie néolibérale. Pendant un temps, ils se sont imposés largement dans l'opinion publique. Par la force, la simplicité et l'apparent bon sens de leur justification. Il faut continuer à les déconstruire l'un après l'autre.